de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie, aujourd'hui avec le journal. Vous êtes avec moi, Audrey. Je vais vous présenter quelques événements importants, entre autres. L'Observatoire économique espère que la carte de pré-emploi pourra renforcer la résilience économique de l'Indonésie. Les perspectives du commerce mondial sont mauvaises à cause du virus corona. L'expansion des affaires PGN coopère avec la société chinoise. Le ministère de l'Industrie facilite 8 petites et moyennes industries artisanales pour pénétrer les marchés européens. Le ministre Eddy a déclaré que le ministre des Affaires maritimes et de la pêche était sérieux dans la lutte contre le vol des poissons. Et Macron a annoncé la stratégie de lutte contre le communautarisme. Chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. L'Observatoire économique espère que la carte de pré-emploi pourra renforcer la résilience économique de l'Indonésie. L'Observatoire économique senior Khatib Basri espère que le programme des cartes pré-emploi pourra renforcer la résilience économique de l'Indonésie et la protéger des impacts de la récession économique mondiale que à l'épidémie de coronavirus. Cela a été dit par Khatib Basri après être devenu conférencier lors d'un séminaire sur la carte pré-emploi à Jakarta mardi 18 février. Selon lui, l'effort pourrait être une des mesures pour renforcer l'économie nationale en anticipant l'impact de l'étranger. La carte pré-emploi devrait absorber de nombreux travailleurs. Elle peut donc encourager le pouvoir d'achat des personnes. Khatib a souligné que si la résilience économique antérieure de l'Indonésie peut être maintenue, la croissance économique de l'Indonésie restera stable au milieu de l'épidémie de coronavirus qui a éclaté pour la première fois en Chine. De plus, la Chine est l'un des grands partenaires commerciaux de l'Indonésie. Elle a donc d'énormes influences sur l'économie indonésienne. Les perspectives du commerce mondial sont mauvaises à cause du virus corona. L'Organisation mondiale du commerce, OMC, prévoit que l'épidémie de virus corona aggravera le taux de commerce mondial en 2020. Comme cité à Antara mardi 18 février, l'OMC prévoit que l'indicateur du commerce des marchandises chutera à 95,5 de 96,6 en novembre dernier. Pour mémoire, la valeur de l'indicateur inférieur indique une croissance du commerce inférieure à la tendance à moyen terme. L'OMC a expliqué que ces chiffres ne tiennent pas encore compte des derniers développements comme l'épidémie de virus corona qui peut encore réduire les perspectives du commerce. L'OMC enregistre un commerce mondial de marchandises en baisse de 0,2% sur une base annuelle au troisième trimestre de 2019. Les perspectives s'améliorent au quatrième trimestre. Cependant, des nouvelles données montrent que cette reprise ne sera pas durable car la diminution des échanges pourrait se produire à la période de janvier au mars. L'expansion des affaires, PGN coopère avec la société chinoise. PT Prusan Gasnagara TBK PGN coopère avec une entreprise de fabrication chinoise WND Liaoning Heavy Industry pour développer son activité de gaz naturel liquéfié, GNL. L'accord de coopération a été signé par le directeur de la stratégie et du développement commercial de PGN, Shahrial Mukhtar, et le directeur général de WND Liaoning Heavy Industry, Chu Yanping William. Shahrial Mukhtar, dans un communiqué reçu à Jakarta mardi 18 février, a espéré que cette coopération pourrait être mise en œuvre conformément à un plan de la PNG et pourrait soutenir la mission de PGN de pénétrer les marchés chinois du gaz naturel liquéfié. En outre, il a affirmé qu'il y aurait d'autres coopérations potentielles. PGN et WND Heavy Industry se coordonneront également pour échanger des données et informations pertinentes, fournir une assistance et des informations concernant les licences ainsi que fournir des conseils et une évaluation complète afin d'établir la coopération. Le ministère de l'Industrie facilite 8 petites et moyennes industries artisanales pour pénétrer les marchés européens. Le ministère de l'Industrie a facilité 8 petites et moyennes industries artisanales, IKM, pour pénétrer le marché européen. L'une des mesures stratégiques qu'il a prises est de les impliquer dans des expositions internationales telles que l'événement Ambient en Allemagne. La directrice générale des petites, moyennes et diverses industries, Gati Wibawaningsi, a déclaré lundi à Jakarta que, compte tenu le grand potentiel de l'industrie artisanale dans le pays, elle continue de jouer un rôle actif dans la promotion des produits artisanaux nationaux afin qu'ils puissent dominer le marché intérieur jusqu'à la scène mondiale. Gati est optimiste que l'industrie artisanale contribue de manière significative à l'économie nationale par ses résultats à l'exportation. Cela peut être vu par la valeur à l'exportation des produits artisanaux nationaux qui a atteint 892 millions de dollars américains en 2019, soit une augmentation de 2,6% par rapport à l'acquisition en 2018 de 870 millions de dollars américains. Le ministre Eddy a déclaré que le ministre des Affaires maritimes et de la pêche était sérieux dans la lutte contre le vol de poissons. Le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Eddy Prabowo, a déclaré que le ministère des Affaires maritimes et de la pêche était sérieux dans la gestion des activités des navires de pêche illégales, des navires délinquants qui ont eu lieu dans les eaux indonésiennes, qui se déroulaient dans les eaux indonésiennes. Selon Eddy, la tâche à accomplir n'est pas légère, mais il croit fermement la capacité et l'enthousiasme de la Direction générale de la surveillance des ressources maritimes et halieutiques de protéger la mer. En outre, selon lui, la tâche du ministère des Affaires maritimes et de la pêche est de fournir des conseils aux pêcheurs dans l'archipel. De plus, le ministre Eddy a également expliqué que le renforcement de la surveillance des ressources marines et halieutiques est l'une des choses qui devient le centre d'attention. L'ouragan Dennis déclenche une grande inondation en Angleterre. L'ouragan Dennis qui a englouti la Grande-Bretagne depuis le week-end a déclenché des inondations dans plusieurs régions. C'est ce qu'a rapporté l'AFP mardi 18 février, l'ouragan Dennis accélérant à 140 km par heure a contraint un certain nombre de gouvernements locaux à émettre des avertissements aux résidents. De fortes pluies pendant 48 heures se sont produites dans diverses régions et ont provoqué des inondations, selon le directeur exécutif de l'Agence pour l'environnement, James Bevan. 400 maisons au Royaume-Uni ont été submergées par des inondations provoquées par des inondations. Il a dit qu'il avait mobilisé environ un millier d'agents pour aider la communauté. Macron a annoncé la stratégie de lutte contre le communautarisme. Lors d'une visite dans la ville de Burgwiller à Mulhouse dans l'est de la France, Macron a spécifiquement annoncé des mesures préparées par le gouvernement pour lutter contre le séparatisme et la radicalisation islamique, car selon Macron, le séparatisme islamiste était incompatible avec la liberté et l'égalité. Il n'était pas conforme aux principes nécessaires de l'État républicain. C'est ce qu'a rapporté RFI sur son site internet mardi le 18 février 2020. Selon le rapport RFI, parmi ces étapes stratégiques, le gouvernement français cessait d'accueillir les imams et salmodiards détachés envoyés par les pays comme la Turquie et l'Algérie. Pour répondre aux besoins des imams dans les mosquées en France, le gouvernement continuera d'accueillir des imams détachés d'autres pays et sera financé par eux-mêmes dans le cadre d'accords bilatéraux. Dans son discours, Macron a expliqué que cette étape n'était pas de stigmatiser une religion et de ne pas combattre l'islam, parce que si cela se produit, ce sera une grosse erreur pour le pays. Chers auditeurs, c'était les nouvelles. Bonsoir à tous, voici le commentaire d'aujourd'hui, intitulé « L'Afghanistan après l'élection ». La commission électorale afghane du 18 février 2020 a annoncé officiellement qu'Ashraf Ghani avait été réélu président de l'Afghanistan pour la deuxième période. Lors de cette élection présidentielle afghane, Ghani a remporté 923 592 voix ou 50,64% de son rival Abdullah Abdullah avec 720 841 voix ou 39,52%. La politique afghane est dans une polémique après que le principal rival du président Ashraf Ghani a rejeté les résultats des premières élections de septembre. Son équipe a soumis des milliers de prévus de tricherie sur les premiers résultats. Abdullah a déclaré que des dizaines de milliards de votes pour Ghani étaient de la fraude. Il a rejeté les résultats du dépouillement après avoir été annoncé en se qualifiant de gagnant sur la base de votes clairs. La réélection d'Ashraf Ghani était également à l'honneur. Rappel du voyage en 2014. Le deuxième tour s'est déroulé au milieu de plaintes de fraude massive. Après l'accord négocié par les États-Unis, Ghani est devenu président. Partageant le pouvoir avec Abdullah au sein du gouvernement d'unité nationale. Ces deux personnalités ont partagé le pouvoir au cours des cinq dernières années dans un gouvernement d'unité formé par les États-Unis à la suite d'allégations généralisées de fraude et de corruption lors du scrutin de 2014. Les talibans qui luttent pour le retrait des troupes étrangères du pays après avoir été renversés par les forces américaines en 2001 ont qualifié l'élection de fraude. Des groupes talibans ont même exhorté les Afghans à boycotter les urnes et menacé d'attaquer les forces de sécurité, de bloquer les routes et de cibler les bureaux de vote à travers le pays. Plus de 72 000 agents de sécurité ont été déployés dans 49 402 bureaux de vote nationaux, tandis que 410 bureaux de vote resteront fermés samedi en raison de problèmes de sécurité. Avec l'achèvement du processus électoral en cours en Afghanistan, les tâches du président élu sont en fait encore beaucoup. Veillez à ce que ses rivaux politiques puissent soutenir la période de leadership jusqu'à son terme et sécuriser les négociations avec les talibans. Nous souhaitons le meilleur à Afghanistan. Sur Juditar, c'est tout le commentaire.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec la conférence des jeunes et des étudiants d'Asie du Sud-Est se battant pour la liberté et l'indépendance le 19 février 1948. La conférence des jeunes et des étudiants d'Asie du Sud-Est pour la liberté et l'indépendance s'est tenue à Calcutta, en Inde, du 19 au 23 février 1948. La conférence est organisée par la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique et l'Union internationale des étudiants. Il a souvent été affirmé qu'il était le point de départ d'une série de soulèvements communistes armés dans les pays asiatiques. La conférence a été assistée par des délégations de Birmanie, de Chine, de Ceylan, d'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, du Népal, du Pakistan, des Philippines, de l'Union soviétique et du Vietnam. L'autre information est sur le lancement du prototype de fusée de recherche de la Chine T7 le 19 février 1960. T7 est le nom de la première sonde roquette chinoise lancée en orbite. Le prototype du T7 a été lancé pour la première fois le 19 février 1960 et la vraie fusée le 13 septembre 1960. Le T7 transportait une charge de 25 kg à une hauteur de 58 km. Il a une longueur de 8 mètres, un poids de lancement de 1138 kg et un diamètre de 45 cm. Sonding rocket est également appelé fusée de recherche. Il est conçu pour prendre des mesures et mener des expériences scientifiques pendant le vol sous-orbital. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec le massacre de Kraipatu. Le massacre de Kraipatu s'est produit le 19 février 1986 quand environ 80 travailleurs agricoles Tamoul auraient été tués par des militaires de l'armée sri-lankaise. Leurs corps ont été brûlés dans la province orientale du Sri Lanka. L'incident est apparu quelques jours seulement après que les dirigeants de la communauté se soient rendus dans un endroit éloigné près de la ville de Kraipatu, où les ouvriers agricoles ont été abattus. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Ku tutup mata, hindari pagi. Tenggelam di dalam galau tak pasti. Aku hiraukan suara hati yang ingin berlari. Rindukan mentari. Sepi. Musim berganti dan ku masih begini. kasih, ku tak sama lagi.
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée Tak Sendiri, chantée par Monita Tahelia Fit Gebi. Vous êtes avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie. Chers auditeurs, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter mon Indonésie et pour le titre, le ministre du Commerce se rend aux États-Unis pour accroître les exportations. Le ministre indonésien du Commerce, Agus Suparmanto, s'est rendu aux États-Unis du 13 au 15 février pour accroître les exportations et supprimer les barrières commerciales entre les États-Unis et l'Indonésie. Au premier jour, Agus Suparmanto a rencontré des représentants du Bureau représentant américain au commerce, ou STR, à Washington. Ils ont discuté du mécanisme d'exonération des droits d'importation ou du système généralisé des préférences. Il a expliqué que lors de la réunion tenue jeudi matin, où STR avait convenu de certaines questions qui n'avaient pas encore été négociées. Ces questions incluaient l'assurance qui avait été délivrée à l'autorité des services financiers ou OJK jusqu'au nouveau règlement sur l'importation de produits horticoles après que les États-Unis aient gagné le procès contre l'Indonésie à l'organe de règlement des différentes de l'Organisation mondiale du commerce. Agus Suparmanto espère que la discussion sur le système généralisé des préférences pourrait être terminée avant l'arrivée du président indonésien Joko Widodo à Las Vegas pour assister au sommet ASEAN-États-Unis à la mi-mars 2020. Au deuxième jour, le ministre Suparmanto a reçu des représentants d'hommes d'affaires américains qui se sont joints au Conseil d'affaires des États-Unis ASEAN, ou SABC. Ils ont discuté de certains obstacles au commerce, notamment dans le secteur du commerce électronique. Après la réunion, le ministre Suparmanto a déclaré « Une réglementation du commerce électronique est délibérément adoptée pour enregistrer les entreprises sur une plateforme électronique en course en Indonésie. Cela vise à protéger les consommateurs en Indonésie. » Pendant ce temps, la délégation USABC dirigée par le président et le président directeur général du Conseil d'affaires des États-Unis à ASEAN, Alexander C. Feldman, espère que l'Indonésie pourrait accroître ses efforts afin d'être prête à recevoir des investissements dans les technologies de l'information et de la communication, principalement en termes de réglementation, d'infrastructures et réduction des obstacles à l'investissement dans ce secteur. Auguste Supermanto a également expliqué le développement d'Omnibus Law qui facilitera les investisseurs et les hommes d'affaires à investir en Indonésie. L'Omnibus Law a également été qualifié de politique attendue par les hommes d'affaires car de nombreuses réglementations sont lourdes pour les hommes d'affaires, en particulier en ce qui concerne les licences, seront bientôt simplifiées. Lors de la réunion, il y avait également le ministre indonésien de coordination des affaires maritimes et des investissements, Luhut Binsar Panjaitan, le ministre de la communication et de l'informatique, Johnny G. Platt, ainsi que le vice-ministre des affaires étrangères, Mahendra Siregar. Outre que de discuter du développement du commerce lors de la réunion, les délégations indonésiennes ont également promu le potentiel de l'investissement, y compris les opportunités d'investissement dans le développement dans la nouvelle capitale. Serge Ritor, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Namamu.
de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée Aku Jatuh Cinta, chantée par Pasto. Vous êtes toujours avec nous, Voice Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans votre rubrique quotidienne, le magazine culturel. Pour l'édition de ce soir, nous vous invitons à visiter la plage Seger à Lombok. Les plages de Lombok sont connues depuis longtemps pour être belles et incroyables. Cela fait également l'île des Mille Mosquées comme l'une des destinations préférées des touristes étrangers. Les touristes étrangers aiment vraiment le panorama de la nature vierge et rarement touchée par les humains. L'un d'eux est la plage Seger. La plage Seger est l'une des attractions légendaires et populaires en résidence de Lombok central. La position exacte est dans le village de Sukadane, le district de Pujut. Elle est incluse dans l'un des tourismes piliers de Mandalika. Cette plage est en fait toujours en ligne avec la plage de Kuta, Lombok. La distance de deux destinations n'est qu'environ 2 km. Chers auditeurs, si vous partez de l'aéroport international de Lombok, il faut environ 30 minutes pour arriver ici. Pendant ce temps, pour les voyageurs qui restent la nuit dans la région de Senggigi, le voyage prendra environ 1h30. Ne vous inquiétez pas de l'accès, l'état de la route vers la zone de Mandalika est très bon. Le quartier de la plage Seger est assez vaste, il y a plusieurs points qui peuvent être explorés pour profiter de sa beauté naturelle. Chaque côté de cette destination offre un panorama différent, tout cela gâte vos yeux. Pour ceux qui veulent voir le charme de la belle plage Seger d'une hauteur, vous pouvez monter la colline autour de la plage. Au bord de la plage, vous trouverez une rangée de statues qui sont érigées au nord où les courants océaniques sont plus calmes. Vous verrez une sorte de monument décrivant une princesse qui veut se libérer de trois hommes. Cette statue n'est autre que la légende de la princesse de Mandalika. Le peuple Sasak croit que la plage Seger est le lieu où la princesse Mandalika s'est noyée. Jusqu'à présent, la légende continue d'être préservée à travers le festival Bau Nyale. Lors de l'événement annuel, les résidents seront occupés à attraper des vers de mer. Cet animal est considéré comme l'incarnation de la princesse Mandalika. Chers auditeurs, c'était notre programme Le Magazine Culturel pour aujourd'hui. Merci de votre attention. À demain. Chers auditeurs, c'était la chanson de Malida intitulée Dirimu yang ku cinta. Vous êtes avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la suivante, voici donc Apprendre l'Indonésien.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission de ce soir avec la rubrique Apprendre l'Indonésien. Un programme qui présente le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre La Voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue et du livre du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Vous êtes avec moi Audrey et le sujet d'aujourd'hui, Membuat Janji. Membuat Janji, ou en langue française, avoir un rendez-vous. L'objectif de cette activité est, après avoir fait écouter cette édition, les apprenants peuvent s'exprimer pour avoir un rendez-vous par téléphone. Voici la conversation. La situation, Kevin essaie de trouver une auberge avec M. Imran. Il se communique par téléphone pour avoir un rendez-vous de se retrouver à l'hôtel. Bonne écoute.
Allô, pa.
Ya, halo.
Begini, Pak. Saya mau mencari tempat kos hari ini. Apakah Bapak bisa menemani saya?
Bisa, bisa. Pukul berapa ya?
Bagaimana kalau setelah makan siang?
Oke, kita bertemu di lobi hotel ya.
Oke, Pak.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation ci-dessus, je vais vous présenter les expressions et les vocabulaires reliant au sujet d'aujourd'hui, membuat janji, ou en langue française, avoir un rendez-vous. Bonne écoute. Hello. Hello. Allô. Tempat kos. Tempat kos. Auberge. Bertemu. Bertemu. Se retrouver. Saya mau mencari tempat kos hari ini. Saya mau mencari tempat kos hari ini. Je voulais essayer de trouver une auberge aujourd'hui. Apakah Bapak bisa menemani saya? Apakah Bapak bisa menemani saya? Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Pukul berapa? Pukul berapa? À quelle heure? Bagaimana kalau setelah makan siang? Bagaimana kalau setelah makan siang? Après le déjeuner, est-ce que c'est possible? Kita bertemu di lobi hotel ya. Kita bertemu di lobi hotel ya. On se retrouve à la halle de l'hôtel, ça va? L'explication. Chers amis, dans la conversation ci-dessus, vous avez entendu Kevin a dit « Bagaimana kalau setelah makan siang ?»« Bagaimana kalau setelah makan siang ?» Et après le déjeuner, lors d'un rendez-vous, on se discute généralement de l'heure et du lieu de la rencontre pour demander à l'autre personne de votre opinion sur l'heure ou le lieu que vous proposez. Vous pouvez commencer par la phrase « Bagaimana kalau? Bagaimana kalau? En français, et si? Par exemple, bagaimana kalau setelah makan siang? Bagaimana kalau bertemu di lobby hotel? Après le déjeuner, est-ce que c'est possible? On se rencontre à la halle de l'hôtel, est-ce que c'est possible? En réponse à cette question, vous pouvez dire Ok, baiklah, saya setuju. Ok, baiklah, saya setuju. D'accord, d'accord, je suis d'accord. Ou, ah, ide bagus. Ah, ide bagus. Bonne idée. Si vous êtes d'accord. Cependant, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire Maaf, saya tidak bisa. Maaf. Saya tidak bisa. Désolé, je ne peux pas. Ou bien, maaf, saya tidak mau. Maaf, saya tidak mau. Désolé, je ne peux pas. Allons écouter les exemples. Kevin, Bagaimana kalau setelah makan siang? Bagaimana kalau setelah makan siang? Après le déjeuner, est-ce que c'est possible? Imran. Maaf, saya tidak bisa. Saya ada janji lain. Maaf, saya tidak bisa. Saya ada janji lain. Désolé, je ne veux pas. J'ai déjà un rendez-vous. Kevin. Bagaimana kalau kita pergi ke puncak? Bagaimana kalau kita pergi ke puncak? Si on va à puncak, est-ce que c'est possible? Imran. Ide bagus. Ide bagus. C'est une bonne idée. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez y répondre. Imran. Maaf, saya tidak mau. Tempatnya terlalu jauh. Maaf, saya tidak mau. Tempatnya terlalu jauh. Désolé, je ne voulais pas. C'est trop loin. Information supplémentaire. Cher ami, en plus de poser des questions sur les opinions, le mot bagaimana ou bien comment est également utilisé pour le complément de la manière. Par exemple, bagaimana cara pergi ke sana? Bagaimana cara pergi ke sana? Comment pour y aller? Bisa naik motor atau bus? Bisa naik motor atau bus? Vous pouvez y aller à moto ou en autobus. Bagaimana cara mendaftar? Bagaimana cara mendaftar? Comment pour s'inscrire? Isi formulir ini dulu. Isi formulir ini dulu. Il faut remplir cette fiche. Chers auditeurs, avant de terminer, apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois. Bonne écoute.
Halo, Pak.
Ya, halo.
Begini, Pak. Saya mau mencari tempat kos hari ini. Apakah Bapak bisa menemani saya?
Bisa, bisa. Pukul berapa ya?
Bagaimana kalau setelah makan siang?
Oke, kita bertemu di lobi hotel ya.
Oke, Pak.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître la langue indonésienne. On se rencontre demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci beaucoup d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson intitulée Hingga Memutih Tulang, chantée par Club Project. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie, au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique Magazine Musical, je vais vous présenter une chanson de la province de Sumatra Ouest, intitulée Bare Solok. Bare Solok. Cette chanson utilise les paroles de Minang. En indonésien, Bare signifie riz et Solok est le nom d'une région de l'ouest de Sumatra. Donc, cette chanson rencontre le délicieux et célèbre riz Solok. Dans les paroles, il est mentionné que le riz du Solok, qui est cuit, est si délicieux qu'il est consommé avec des légumes frais et du sambal. Chers auditeurs, voici la chanson Bare Solok, chantée par Eli Kasim. Bonne écoute.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!